Retransmission. L'émission qui donne à entendre des projets sonores venus d'ici et d'ailleurs. Des créations indépendantes sur des enjeux de société à découvrir un vendredi sur deux à 18h sur Jet FM. Aujourd'hui, dans Retransmission, nous vous proposons une immersion au cœur de quelques histoires populaires. Des récits vivants, des histoires de territoire, des fragments du quotidien. Et c'est Globe Compteur, une association qui œuvre en faveur d'une transmission sensible de l'histoire populaire entre les générations et les cultures, qui est à l'origine de ce projet. Le coffre aux histoires vraies. Des créations sonores ont vu le jour, issus de leur collecte de récits divers. Et aujourd'hui, nous allons entendre deux capsules sonores, Souvenirs d'école et Destin de femme. Belle écoute sur Jet FM.
Et si nos petites histoires racontaient la grande histoire?
Moi, j'appelle ça une anecdote, et c'est une anecdote au regard de l'histoire. Mais dans la vie de cet homme, c'est pas une anecdote.
Et à la fin de la nuit, vers 7h du matin, je lui ai raconté mon histoire.
Et de ce jour-là, ma vie a basculé.
Et il a dit, mais Joachim, c'est ton destin. C'est ton destin de gitan, même. Ça veut dire que si tu vas à l'encontre de ça, il va t'arriver des bricoles.
Moi, j'étais tellement jeune qu'il y a des choses que c'est vague dans mon cerveau.
Notre histoire raconte la vie dans une ferme française.
Le coffre aux histoires vraies.
Comment on vit en 1971?
Un podcast de Globe Compteur, réalisé par Alaphonie.
Dans la vie de tous les jours, ça ne devait pas être très facile.
Le coffre aux histoires vraies, souvenirs d'école.
Vous voulez que je vous raconte ce qu'elle faisait à l'école, votre maman, quand elle était petite?
Je me rappelle toujours au certificat d'études.
À cette époque-là, avoir le certificat d'études, c'était quelque chose d'important.
On n'allait pas jusqu'au bac et tout ça. Hein.
On m'a tout dit sur le premier jour de classe. Le premier contact avec l'école.
Le premier jour d'école, je l'ai dans ma tête encore. J'avais 6 ans, parce qu'à l'époque, on n'allait pas à la maternelle.
Oui. Moi, je suis allée jusqu'à 10 ans à l'école des bonnes sœurs.
On allait à l'école à pied.
On marchait avec des galoches pour aller à l'école.
Je faisais 3 km.
C'était des sabots avec des briques de cuir, là, pour les femmes.
C'était pas une semelle en bois.
Et mais je me souviens que l'hiver, on marchait dans les fossés, sur la glace. On glissait.
Non. C'était une semelle en bois. Puis les gardes, c'était des sabots polka, là, vous savez, des sabots recouverts.
La glace fendait et on se retrouvait les fesses dans l'eau.
Alors j'aime mieux vous dire que je m'en souviens. Hein.
Le trajet pour aller était plus court que celui du retour, parce qu'on s'amusait.
L'entrée dans la condition écolière, c'est la première vraie mutation dans la vie d'un enfant. Le deuxième sevrage.
Que moi, le premier jour de classe, on m'a demandé qu'est-ce qu'on parlait à la maison. Bah, je lui ai dit on parle, parce qu'en fait, on parlait très mal le français, parce qu'on le mélangeait avec le basque. C'était interdit à l'école.
Et c'est pourquoi la scène se joue parfois comme un petit drame en trois actes, au lever de rideau de 8h30.
Donc je suis arrivée à l'école des filles, mais j'étais une petite, pas une petite sauvage, mais je ne connaissais rien de la ville et des convenances.
À l'école primaire, j'amusais toujours la galerie. Je faisais des grimaces et des oreilles de lapin à mes camarades. Je mettais mes doigts dans les encriers, je m'essuyais sur les bureaux des autres.
Donc tout ce qui faisait la vie à côté, les convenances, la manière de vivre, j'ignorais complètement.
On avait des blouses.
Oui, il y avait une blouse, il fallait mettre une blouse chez les bonnes sœurs, oui. Moi, c'est ma mère qui me faisait.
Alors, donc, j'arrive à l'école. D'abord, je vois beaucoup d'enfants, Et puis, donc, il faut vite comprendre, il faut faire vite, il faut rentrer dans le système tout de suite.
Il fallait faire la prière le matin, le midi, peut-être bien avant de manger.
Et tous les quarts d'heure, il y a la première, elle avait la cloche.
Ah ben, oui,
et puis elle sonnait, la bonne sœur lui disait de sonner, puis il y avait une petite prière.
Alors je vois que tout le monde se met en rang, alors je prends la main de la petite fille à côté, deux par deux, on entre évidemment donc dans la classe.
Alors j'avais 6 ans, hein, quand je suis passée d'une école à une autre école, bien sûr.
Et puis je comprends vite qu'il faut lever la main quand on veut, évidemment, demander quelque chose. Ou...
Avec une institutrice qui n'acceptait pas que j'écrive de ma main gauche.
Puis à un moment donné, une envie d'aller aux toilettes me prend. Terrible.
Terrible.
Alors je lève la main.
Ma main droite.
Alors je dis, s'il vous plaît madame, est-ce que je peux aller au water? Parce qu'on disait les water à l'époque.
Donc effectivement, elle m'attachait ma main gauche le matin à mon banc derrière. Et il fallait que je me débrouille avec ma main droite.
Et donc la maîtresse à l'époque, qui vous voyait même, vous savez, même les petits-enfants, elle me dit, non mademoiselle, vous irez donc au water. À la récréation.
À la récréation.
Mais pas maintenant.
Donc le cahier était vraiment pas propre. On avait plein de potées, forcément. La plume laissait des traces. Enfin, c'était quelque chose d'assez spécial, forcément.
Je la regarde. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Moi, je n'avais qu'une chose à faire. C'était aller de l'autre côté de la petite route, descendre ma culotte et faire pipi. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Maintenant, même si on demande, on ne peut pas faire pipi. Pour moi, c'était une chose à 6 ans, imaginez, hein, je venais juste d'avoir 6 ans. Hein.
Puis, quand c'était vraiment, il y avait vraiment trop de saleté, trop de pâté sur ce cahier, elle prenait le cahier, l'ouvrait, me l'accrochait avec une pingle à nourrice sur mon sarrau, dans mon dos.
Ça, c'est pas possible.
Et je devais me promener pendant la récréation avec le cahier ouvert pour montrer aux autres l'effet de mon écriture.
Et puis, qu'est-ce que je fais? Je fais pipi. Je fais pipi sur le banc. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je fais pipi sur le banc.
C'était très, très, très humiliant. Même si j'ai pas eu d'enfants qui se sont réellement moqués de moi, je trouvais ça humiliant.
Alors là, j'ai un souvenir. Toute la classe, les petites filles complètement ahuries, m'entoure, la maîtresse regardait, elle devait se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Les petites filles qui regardaient, une flaque, évidemment, qui s'étendait.
En fait, je n'y étais pour rien. En plus, j'avais ce sentiment-là déjà, enfant, que je n'y étais pour rien, que ce n'était pas de ma faute. Donc je ne méritais pas la punition.
Et après, c'est bizarre parce que je ne sais plus ce qui s'est passé après.
Mais ça arrivait d'autres enfants qui écrivaient mal et qui avaient aussi ce genre de punition.
Je ne sais pas dans la journée ce qui s'est passé après.
Et en plus, le choc de qui, de quoi, de l'écriture.
Je ne sais plus du tout.
Des punitions, de la situation familiale, je ne sais pas. Je me suis mis à bégayer.
J'ai un flou.
Donc il a fallu...
C'est noir.
Une patience, ce n'est pas possible parce que je n'arrivais pas à m'exprimer.
Par contre, je sais une chose. C'est ce qui s'est passé au retour.
Le savoir est de beaucoup la portion la plus considérable du bonheur. Sophocle.
Vers les 5 heures, on partait de l'école. J'avais une sœur qui travaillait déjà. Et elle avait dit à une de ses collègues, eh ben, j'ai une petite sœur qui est arrivée à la maison. Eh bien, je vais aller la chercher si tu veux venir avec moi. Donc, à la grille, et puis derrière, les parents qui attendaient leurs enfants, puis ma sœur, donc, avec sa collègue. Et puis nous, deux par deux, sauf moi. J'étais pas dans le rang, moi. J'avais un manche à balai avec ma culotte accrochée au manche à balai. J'étais devant les petites filles, devant tout le groupe des petites filles. Le manche à balai, la culotte accrochée au manche à balai avec un écriteau « Je suis une cochonne ». Je suis une cochonne. Alors ma sœur, qui avait un sourire merveilleux pour m'accueillir, quand elle a vu sa petite sœur en tête, avec cet écriteau « Je suis une cochonne », avec la culotte évidemment, quand elle m'a accueillie avec la honte qu'elle avait, parce qu'elle aurait été toute seule, mais comme elle était avec une petite collègue, imaginez la honte. Je suis arrivée et c'est là que j'ai reçu la première gifle de toute mon existence. C'était mon premier jour de classe.
Tout ça te reste dans la tête toute ta vie, quoi.
Un jour, la directrice en a eu marre. Elle m'a demandé : qu'est-ce que tu viens faire à l'école ?
Parce que ça donnait 2 points pour le certificat d'études.
Je lui ai répondu que je venais user mes fonds de culotte.
Le brevet sportif, hein ? Vous vous rappelez ?
J'étais la seule gauchère, quand même, qui avait été contrariée.
Vous voulez que je vous raconte ce qu'elle faisait à l'école, votre maman, quand elle était petite ? Elle leur a raconté mes bêtises.
Et alors là, j'ai reçu la première gifle de ma vie.
Je leur ai dit que ce n'était pas des choses à faire.
Parce que c'est une punition, quand même, hein. Faut bien ce qu'il y ait.
Je crois qu'on s'en rend pas compte.
Pour moi, ça semblait normal. C'est pas normal, mais qui, bien sûr.
Vous venez d'écouter un épisode du podcast Le coffre aux histoires vraies, consacré aux souvenirs d'école. Il met en scène quelques-uns des témoignages que l'association Globe Compteur et ses collecteurs récoltent depuis 2017 sur tout le territoire français, à l'appui de nombreux partenariats locaux. L'objectif du projet ? Proposer une histoire populaire et sensible, tissant des liens entre les générations et les cultures. Dans cet épisode, vous avez pu entendre les récits de Marie, collectée par Nathalie à Asparin, de Nicole, collectée par Cédric à Nantes, d'Anita, collectée par Cédric à Haute-Goulaine, d'Odette, collectée par Isabelle à Nantes, de Nicole et Jeanne, collectées par Brice, Elsa et Capucine du lycée Jacques Prévert à Savenay dans la Loire, de Jean, collecté par Céline à Haute-Goulaine, et de Michel, collecté à l'écrit par Lise et interprété par Déborah. Enrichi de quelques samples d'archives et des bruitages de Joseph Sardin de la sonothèque.org. Retrouvez tous les témoignages via la carte vivante sur le site globecompteur.org. Et si nos petites histoires racontaient la grande histoire ?
Moi j'appelle ça une anecdote, et c'est une anecdote au regard de l'histoire. Mais dans la vie de cet homme, c'est pas une anecdote.
À la fin de la nuit, vers 7h du matin, je lui ai raconté mon histoire.
Et de ce jour-là, ma vie a basculé.
Et il a dit, mais Joachim, c'est ton destin. C'est ton destin de gitan, même. Ça veut dire que si tu vas à l'encontre de ça, il va t'arriver des bricoles.
Moi, j'étais tellement jeune qu'il y a des choses que c'est vague dans mon cerveau.
Notre histoire raconte la vie dans une ferme française.
Le coffre aux histoires vraies.
Comment on vit en 1971 ?
Un podcast de Globe Compteur réalisé par Alaphonie.
Dans la vie de tous les jours, ça ne devait pas être très facile.
Le coffre aux histoires vraies. Destin de femme.
Moi, je me suis mariée d'abord très jeune. Mon mari est parti en Algérie. Ma vie a été très dure au départ. Et je ne peux pas dire qu'à ce moment-là, on ne peut pas dire que les gens vous aidaient, parce que tout le monde avait peut-être beaucoup à faire aussi.
Je suis partie travailler à l'usine. Eh bien, elle me disait que c'était la débauche dans les usines, là. C'était pas un bon endroit pour les jeunes filles d'aller travailler à l'usine, à la chaîne. Oui, elle pensait que rester à la maison, c'était mère au foyer, c'était très bien.
Bon, on m'a pas demandé « qu'est-ce que tu veux faire ?» On m'a dit « t'as de la chance, on t'a trouvé un métier. » « Quel métier ? Qu'est-ce que tu... »« Couturière. » »« Ah bon ?» Tu réponds pas.
J'étais pas très bonne à l'école, mais excellente en rédaction. J'avais toujours la meilleure note. J'adorais lire et écrire depuis toute petite. La maîtresse m'aurait bien vue continuer et être institutrice. Mais pour les parents, c'était pas la même vision. Et ils n'ont pas cédé. À 14 ans, ils m'ont mise en apprentissage pendant 3 ans chez une couturière.
Alors je suis partie comme couturière. Apprendre le métier, donc j'ai passé 3 années.
J'aimais pas ça, j'étais pas douée du tout.
La couturière chez qui je travaillais, elle était obligée de m'envoyer, de me donner le lundi pour aller au cours. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, lire, on n'avait pas de livre, on lisait pas. Et à tel point qu'on n'avait pas de livre, quand je réussissais à en avoir, c'était n'importe quoi. N'importe quoi,
ce que tu tombais
sous la main. Et je me cachais. Ma chambre était près d'une bibliothèque. J'avais pris un livre et je le lisais et je le mettais sous mon oreiller. Mais j'avais pas le droit. Et puis, la dame chez qui j'étais, Elle me dispute, elle dit, vous êtes une voleuse, tout ça.
Vous êtes une voleuse.
Et elle a appelé la personne qui s'occupait de moi pour dire, elle a pris un livre. J'avais pas le droit de le lire, on n'avait pas le droit de le lire. J'avais pas. Et pour moi, c'était quelque chose d'important de lire.
J'ai toujours continué à lire et à écrire. J'ai même été correspondante de presse pour Ouest France et le Courrier Vendéen. Et cela dès mes 18 ans. En échange des articles, j'avais l'abonnement gratuit.
Mes premiers livres que j'ai achetés après, ils sont là. C'est quand mes enfants étaient petits, je me disais quand même, tu dépenses de l'argent. Mais je me suis acheté des livres. C'est ça que j'ai acheté. Ils sont là.
Ils sont encore là.
Toute la série est là. Des auteurs, mais des bons auteurs. Hein, c'était des bons auteurs. Et c'est pour moi la première chose que j'ai faite, c'est d'acheter des livres. Ils sont là, c'est toute la ligne blanche qui est en haut là. Tu vois, au deuxième étage.
Oui.
Voilà, le si peu que j'ai appris, je l'ai appris comme ça à lire.
Que pensez-vous du livre de poche? Beaucoup de mal. Pourquoi? Parce que ça fait lire un tas de gens qui n'avaient pas besoin de lire finalement, qui n'avaient jamais ressenti le besoin de lire. Ce qui leur a donné une espèce de prétention intellectuelle qu'ils n'avaient pas.
Mes deux sœurs se fument le même scénario. Pas le droit de dire ce qu'on voulait, pas les moyens de nous payer des études. Comme la couture n'a pas marché, on m'a envoyée aux huîtres, puis femme de ménage.
Après, quand j'ai eu fini mon CAP de couturière, que j'ai eu bien comme il faut, n'est-ce pas? Et on m'a dit, bah, tu vas les bonnes maintenant. On a les bonnes. Bonnes. Voilà, c'est un mot qui n'est pas beau. Hein. Tu allais chez des travailler, mais tu ne choisissais pas non plus. On disait, tiens, il y a une place, quelqu'un t'a trouvé une place comme bonne.
C'est l'histoire de presque toutes les filles de Lille, avec en plus le choix du sel ou le travail au champ.
Et il y a toujours des gens qui avaient plus d'argent, qui se faisaient servir, c'était le personnel qui venait. Des fois, c'est vrai qu'ils ont profité beaucoup de nous quand même. On avait des petits salaires de misère, on gagnait 1,20€, ça présentait trois fois rien, quoi.
Après l'école ménagère, oui, J'étais employée de maison sur Nantes, dans une famille. C'était des médecins. J'étais podologue. Je faisais le ménage, je faisais la cuisine et je me souviens que le premier jour, je leur ai servi des frites et au lieu de les saler, je les ai sucrées. Ils m'ont dit ça après, qu'ils n'avaient pas voulu me le dire sur le moment pour ne pas me gêner, mais... J'avais mis du sucre au lieu du sel.
Mais par contre, moi qui étais employée chez les autres, toutes les jeunes du pays, aucune me parlait. Il y avait juste la fille du charcutier qui me parlait parce que moi, j'étais la bonne à tout faire.
Je n'avais même pas de chambre. C'était la salle d'attente qui me servait de chambre. Il y avait une espèce de banquette et puis je dormais là. Donc il y avait des jours où il commençait son travail de bonne heure, qu'il faisait ses consultations à la maison, et il fallait que je me lève de bonne heure pour que la salle d'attente soit redevenue une salle d'attente.
Mais c'est pour dire que, oui, il y avait le secteur bourgeois de Rochefort, les Bourges, et nous, quoi. Ça a toujours existé, ça.
Et madame était très... très pieuse. Elle disait que la catéchèse, c'était rien ce qu'on avait appris sur la religion, donc elle nous faisait le catéchisme, à moi et à la secrétaire. Et vers les années 1972, la cathédrale de Nantes a brûlé, et elle nous disait que dans la fumée des flammes, elle avait aperçu le diable.
Alors je me vengeais, quand j'étais au bal, je leur soulevais leurs petits cavaliers pour une danse ou deux. Voilà comment je faisais. Ah oui, ça c'était bien rigolo.
À 20 ans, je me marie avec un marin de l'air Baudière. On était très amoureux. On s'était aimés passionnément.
Puis là, le jour du mariage, eh ben, c'était la fête. On était comme ça, 120 personnes, de la ferme jusqu'à la mairie. Un kilomètre de chemin. Les dames étaient toutes en robe longue. Les hommes avaient tous une cavalière. Que ce soit jeune ou vieux, il fallait trouver une cavalière pour, la petite fille ou le petit gars. Ah oui, et puis les hommes étaient avec des nœuds, papillons, oui, aux cravates, enfin, les personnes, c'était tout le temps, c'était bien, c'était beau, c'était des beaux cortèges. On était avec mon père qui nous emmenait, et puis le marié était derrière lui, il était au bout. C'était le père qui emmenait sa fille au mariage, voilà, jusqu'à la mairie.
Ben oui, parce que mon mari, il était sur les pétroliers, à la BP. Et donc, il allait dans tous les pays étrangers. À chaque fois qu'il rentrait dans les ports de France, il me demandait, est-ce que tu peux venir me rejoindre 3-4 jours, une semaine, pas beaucoup. Comme ça, mais comme j'avais mes 4 enfants, c'était maman qui les gardait. J'ai eu 4 enfants en 4 ans. Vous voyez, j'avais pas perdu de temps. Hein. Et donc, elle me gardait mes enfants. Elle me dit, si ton mari te demande, vas-y, parce que vous savez, les marins, bon. Alors j'y allais comme ça, on passait des bons moments ensemble.
Et puis vous pensez, j'avais 16 ans, ils me disent, vous aimez le chocolat, je m'assois sur le lit, puis ils me donnent le chocolat, et puis il y en a un qui s'avance vers moi pour m'embrasser, mais à l'époque, je n'avais peut-être embrassé personne. Eh bien, j'ai ouvert la fenêtre du troisième, j'ai dû ouvrir la chambre où je me jette à l'horizon ouvert. Ça fait que vous comprenez, c'était, voilà, ma défense. Et si quelqu'un me passait une fois, je repassais, il y a un monsieur qui s'est permis de me passer la main aux fesses, j'ai pris fer, je l'ai brûlé là. Il a été à la pharmacie, et le pharmacien me connaissait bien. Il dit, Micheline, mais tu nous envoies des clientes? Et oui, parce que ma mère m'avait dit, laisse pas approcher les hommes. On ne savait pas, vous comprenez, à l'époque, si en vous touchant, en t'enversant, pourquoi on était vraiment nuls, nous, dans ce... C'est vrai, on ne savait rien. Hein. Après, bien sûr, on a appris, mais ça fait drôle. Hein.
Mais votre maman, elle vous avait prévenu des...
Elle avait prévenu, laisse pas approcher les hommes. Alors ça, on y a toujours bien compris. Ça fait que, moi, du coup, je me suis mariée avant l'armée, parce que je voulais coucher avec eux pour voir ce que c'était. Et j'ai poussé, non, vous ne serez peut-être pas. Et oui, parce qu'avant l'armée, c'était peut-être pas à faire, vous comprenez.
Qu'est-ce que c'est qu'une femme pour vous?
Ça peut être la compagne de l'homme dans la vie.
Pourquoi ça peut être? Ça pourrait ne pas l'être? Ce serait quoi alors?
C'est un être humain, alors. Au même titre que l'homme, si elle se marie pas.
Pourquoi si elle se marie?
Si elle se marie dans les conditions actuelles, qu'elle peut pas être l'égale de l'homme dans le mariage.
Pourquoi?
Les structures sociales sont faites de telle façon que la femme peut pas être l'égale de l'homme.
Elle devient quoi alors? Elle est quoi alors à ce moment-là dans le... Est une machine à faire des enfants?
Pas tout à fait, mais elle est presque la servante de l'homme, quoi.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas?
Non, pas du tout.
Moi, j'ai connu même mes tantes dire entre eux, on va aller se taper un petit coup. Qu'est-ce que vous voulez? La serveuse disait. Une chopine, la patronne, du rouge ou du blanc. Oh, il ne savait rien du moment que ça coule. Ouais. Et c'était la chopine. Alors, quand ils étaient toutes seules, les bonnes femmes, les lavoir, vous savez ce qu'ils faisaient? Ils disaient, vous nous mettrez deux verres. Elle était toute seule. Elle se tapait son petit coup de rouge. Elle dit, qu'est-ce qu'il fout qui vient pas? Qu'est-ce qu'il fout qui vient pas? Il dit, le verre est servi. Mais c'est parce qu'elle était toute seule, elle avait envie de se mettre des forces.
Et tape sur ton battoir, tu dormiras mieux ce soir.
Vous venez d'écouter un épisode du podcast Le coffre aux histoires vraies, consacré au destin de femmes. Il met en scène quelques-uns des témoignages que l'association Globe Compteur et ses collecteurs récoltent depuis 2017 sur tout le territoire français et au-delà, à l'appui de nombreux partenariats locaux. L'objectif du projet ? Proposer une histoire populaire et sensible, tissant des liens entre les générations et les cultures. Dans cet épisode, vous avez pu entendre les récits de Micheline, collectée par Sarah à Rochefort-Montagne en Auvergne, d'Odette, collectée par Isabelle à Nantes, de Martine, collectée à l'écrit par Catherine à Lépine et interprétée par Déborah, de Janine, collectée par Blandine à Nantes, d'Eliane, collectée par Marina au Bois d'Anjou, de Janine, collectée par Catherine à Nantes, de Nina, collectée par Marie, Bénédicte et Olivier à Nantes. Le tout enrichi de quelques extraits d'archives et des bruitages de Joseph Sardin de la sonothèque.org. Retrouvez tous les témoignages via la carte vivante sur le site globecompteur.org, un podcast du studio Alaphonie.
D'écouter Retransmission, l'émission qui donne à entendre des créations sonores indépendantes. Vous pouvez la retrouver en podcast sur jetfm.fr. À la suite, retrouvez Les Détricoteuses, une émission féministe de création et de discussion. Bonne soirée sur jetfm.fr.